Hey, est-ce qu'ils sont là, les auditeurs, auditrices de RDWA, ensemble sur le 107, 107.5 et même RDWA.fr? Est-ce qu'on est là? On y est? Peut-être. Si, si, on y est. Bienvenue, rebonsoir à l'instant sur les ondes de RDWA dans cette suite des 24 heures de radio. Nous venons d'entendre Ineco et avec la nouvelle proposition de son émission qui s'appelle les apéros stéréo. Voilà, vous pourrez retrouver ça sur son créneau habituel. Et maintenant, place à la lecture. RDWA fête la radio, mais aussi son installation dans ses nouveaux locaux, 7 rue Félix Germain. 24 heures de radio live depuis ses studios tout juste câblés. Il est bientôt 19h et ça va être l'heure de la nuit de la lecture 2024. Un événement national que nous marquons aussi sur RDWA ce soir jusqu'à 20h. Avec nous en studio, 10 lecteurs, lectrices et un réalisateur sonore. Le corps est le sujet des lectures que vous allez entendre du cœur de cet ensemble, de cette construction radiophonique.
Ah, le corps, le mien, le tien des corps humains, animal qui sait, qui se rencontrent là pour cette nuit de la lecture sur RDWA. Le corps, le nôtre, ensemble, vous et nous, malades parfois, respirant souvent, jeunes ou vieux, transportés, attendus, disparus. Un corps céleste, un corps perdu mais retrouvé. Un corps toujours vivant. C'est sur RDWA, maintenant, la nuit de la lecture, 107.5 et 101.7. FM.
Croire aux fauves, Natacha Martin. L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant, et moi, j'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns solidifiés par le sang séché jonchent le sol, rappellent le récent combat. Depuis 8 heures, peut-être plus, j'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garrotté ma jambe avec la lanière de mon sac à dos quand l'ours s'est enfui. C'est une vieille femme qui ferme mes plaies. Avec une infinie précaution, je la vois manier le fil et l'aiguille. J'ai passé le stade de la douleur, je ne sens plus rien. Mais je suis toujours consciente. Je n'en perds pas une goutte. Je suis lucide au-delà de mon humanité, détachée de mon corps, tout en l'habitant encore. Tout ira bien. Sa voix, ses mains, c'est tout. Je regarde mes longs cheveux blonds tomber à mes pieds par touffes, à mesure qu'elle les coupe pour recoudre les plaies de mon crâne, qui par miracle n'a pas fendu. Je lutte pour discerner une lumière, mais il y a peu à faire. Le fond de la nuit est opaque, douloureux, infini. On n'en sort pas comme ça. Comme c'est un ours qui débarque à la salpêtrière par l'intermédiaire de mon corps, et qu'en plus c'est un ours russe, le personnel de l'hôpital met toutes les procédures de sécurité et de prévention en place. Je suis en quarantaine. Je me sens comme un animal sauvage qu'on aurait attrapé et placé sous un néon blafard afin de l'observer à la loupe. Tout hurle en moi. Les lumières blanches des halogènes me brûlent les yeux, la peau. Je voudrais disparaître, Je voudrais retourner dans la nuit arctique, sans soleil et sans électricité. Je pense aux bougies. Ce serait tellement plus doux si je pouvais me cacher. Me cacher. Je me ressaisis la nuit quand tout s'éteint enfin. Quand les allées et venues cessent. Je fixe un point dans le noir. Je pars sous la terre. Je parle à mon ours. Je suis de nouveau seule dans la chambre. J'ai mal. J'ai vomi du sang il y a quelques heures. Je suis sans conteste à 9,9 sur l'échelle de la douleur. Et ça se voit. La morphine me sauve de la prostration. Les lumières principales s'éteignent. Une douce chaleur court sous mon épiderme alors que la douleur s'apaise. Je m'installe confortablement. J'ouvre mon cahier noir. Je griffonne jusqu'au lever du jour. Cette nuit-là, j'écris qu'il faut croire aux fauves, à leur silence, à leur retenue, croire aux qui vivent, aux murs blancs et nus, aux draps jaunes de cette chambre d'hôpital. Désinnervés, réinnervés, mélangés, fusionnés, greffés. Mon corps après l'ours, après ses griffes, mon corps dans le sang et sans la mort, mon corps plein de vie, de fils et de mains, mon corps en forme de monde ouvert où se rencontrent des êtres multiples, mon corps qui se répare avec eux. Mon corps est une révolution. À la fin de la nuit, cela m'apparaît très clairement. Je veux remercier ses mains à elle. Ces mains de femmes qui ne savaient pas, qui ne s'attendaient pas, elles non plus, à faire face aux brèches ouvertes par la bête de l'autre monde. Ces mains qui enlèvent, qui nettoient, qui rajoutent, qui referment. Ces mains citadines qui cherchent des solutions aux problèmes de fauves. Ces mains qui composent avec le souvenir d'un ours dans ma bouche, qui participent à l'altération de mon corps déjà hybride. Je me dis cette nuit qu'il faut leur faire une place pour guérir. Il faut cicatriser.
Décor. Jean-Thibault Fouletier. À propos du corps, voici la première définition que livre le dictionnaire littré. Ce qui fait l'existence matérielle d'un humain ou d'un animal, vivant ou mort. Une définition qui, comme ce qui caractérise la moindre définition, détermine que ce dont il est question est limité, ce qui veut dire saisissable. Et c'est très important pour une société que le corps soit saisissable. Que ce soit au creux d'un canapé ou bien en errance. Le corps au creux de son canapé semble préférable au regard de l'institution. Préférable parce qu'il est quantifiable. Les téléspectateurs ou bien les internautes sont des corps faisant le corps que sous-pèse cette unité de mesure que je vous propose ce soir, la TEVA. TEVA pour tonne équivalent viande assignée. Assignée à fixité répertoriée, bien entendu. Autrement dit, par exemple, la fixité répertoriée du corps devant son mobile, c'est-à-dire figé, la quantification des corps figés. Pour ce qui est du corps en errance, c'est autre chose. La qualification de SDF, pour sans domicile fixe, épingle ceci, que pour ces corps, précisément, la fixité manque. Le corps TEVA ou bien le corps SDF ont donc pour référence commune le rapport à la fixité, un rapport qui désigne la même chose, sensible, l'usage qui est fait du corps. Cet usage, en droit, cela s'appelle la jouissance. La jouissance, ici, cela désigne l'usage qui en est fait. Dans le champ qui est le mien, celui de la psychanalyse, la jouissance, c'est autre chose, puisque c'est tout bonnement ce qui consume. Ce qui consume le corps du sujet du langage. C'est à partir de ce constat que Jacques Lacan fait claquer cette première formule. La jouissance, ça commence par la chatouille et ça finit par la flambée d'essence. suivi de celle-ci, l'amour, c'est ce qui permet à la jouissance de condescendre au désir. Je souligne que ce propos se fonde de toutes ces paroles qui surgissent dans le cabinet de l'analyste. Des paroles qui, une fois dites, permettent au corps empêché, au corps en souffrance, de s'animer différemment, de s'animer enfin en différence. Pour en revenir au corps en errance et à celui sur canapé, le SDF est en réalité bien souvent le sans-discours fixe, quand ceux du canapé, de discours, ils n'en ont pas. D'un côté donc le corps singulier situé hors discours, et de l'autre le collectif qui n'est présent qu'à corps perdu. Dans les deux cas, il s'agit sans doute moins d'un no man's land que d'un nobody's land. S'animer enfin de la différence, disais-je, en parlant de ce corps. Ceci en écho au fait que, fut un temps, le corps stigmatisé par sa différence, une différence parfois nommée folie, n'avait pour seul recours que l'asile. Asile dont le littré, j'y reviens, nous livre une première définition merveilleuse. Lieu inviolable où l'on se réfugiait. Merveilleuse en ceci, que ce qui s'en saisit, c'est-à-dire, je me répète, ce par quoi l'on peut saisir la chose, mais en retour être saisi par elle, c'est que son abord se fait au passé. Désormais, le corps animé différemment, le corps en souffrance, ne se réfugie plus à l'asile, il se confine. Si c'est aux confins de l'hôpital psychiatrique, c'est pour être l'indice qu'il peut, en tout lieu, faire la pointe au compte du management. C'est-à-dire que s'il est ainsi exfiltré de la norme, c'est pour mieux l'asseoir, cette norme, puisque celle-ci, via le management qui s'opère en ces lieux, le même qui s'opère partout ailleurs, manifeste avoir prise sur lui. Une prise standard, en quelque sorte, donc, puisque la même en tout lieu. Mais qui ne le sait, ce corps-là n'est soutenu que comme faire valoir d'une maîtrise qui n'est que méprise. J'en veux pour preuve que le corps ne se confine pas qu'en hôpital psychiatrique. Il ne se confine pas qu'au motif de la différence. Il peut se confiner aussi au prétexte de la science. En 2020, cela a duré plusieurs mois, confinement, disait-on, au terme desquels le corps ne pouvait se mouvoir qu'à supporter de dépendre d'un pass. La maîtrise revenant alors à imposer un tour de passe-passe, puisque le mouvement du corps dit « normal », qui jusqu'alors était soumis au mot de passe, on se comprend, on est de la même chapelle, de la même famille, le mouvement du corps dit « normal » soumis au mot de passe s'est alors effacé au profit du corps dont le mouvement était conditionné, tout simplement, au passe sans mot. Le corps privé de mots, nous y sommes sommés. C'est là une privation qui vient prolonger celle distillée par l'une des injonctions d'alors, par l'une des injonctions du confinement qui était « ne vous touchez pas les uns les autres », qui elle-même reprenait une parole du Christ « no limite ingere, ne me touche pas ». Le corps sans parole et le corps intouchable, voilà le fameux monde d'après que beaucoup appelaient de leurs vœux. Ce sont pourtant là précisément les caractéristiques des régimes politiques et économiques censés être opposés aux valeurs des Lumières. Lesquelles Lumières se révèlent pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont toujours été, une source exclusive. Source exclusive aujourd'hui figurée par l'écran, petit ou grand, sur lequel tous se penchent. Fanal du pêcheur permettant à chacun d'asservir son corps dans les filets de la norme. Chacun avec son propre consentement, éclairé bien entendu. Sans doute est-ce là la malheureuse réponse contemporaine apportée à Freud, qui, il y a un siècle déjà, posait cette évidence scandaleuse en relevant ceci, qu'il n'y a pas de normes sexuelles. Il n'y a que des normes sociales. Ce qui peut se traduire ainsi, la sexualité est anormable, et la moindre norme sociale témoigne de cet impossible. Ne vous touchez pas les uns les autres, sinon pour en mourir, ne parlez pas, sinon pour ne rien dire. En contrepoint de ces réjouissances, je propose une dernière petite remarque ouverte. La voix, objet privilégié, issu du corps repéré par la psychanalyse, la voix que porte actuellement la radio, la mienne, s'octroie le privilège que ce qu'elle véhicule puisse ne pas être compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou plutôt, qu'est-ce que cela dit? Cela dit qu'à prendre le risque de ne pas être compris, littéralement, je ne suis pas pris à l'intérieur de l'autre. Et qu'en retour, ceux qui m'entendent ne sont alors pas enfermés dans mon discours. Ainsi, au risque assumé d'être pris pour un fou, incompris, je présente en réalité ma liberté à quiconque souffrira de s'y ouvrir. Ouverture qui, c'est mon pari, place chacun devant le choix de prendre ou non le risque de disposer de la sienne. Voilà ce qui s'entend dans ce qui ne se comprend pas. Le risque inouï de l'ouverture, autrement dit, le corps accordé au diapason bancroche de la parole. C'est un corps à corps, à écrire CORPS-ACCORD. Oui, le corps à corps porté par le nécessaire que représente Erdiwa.
Je vous convie à une danse introspective, une exploration sensorielle du corps, ce temple qui abrite l'âme et l'esprit. Écoutons le murmure de notre corps, de notre être, la symphonie subtile des battements du cœur, le souffle délicat qui anime nos jours. Notre corps, un poème vivant, qui résonne au rythme de l'émotion, de la relation, du mental en perpétuel mouvement. Prendre soin de soi, c'est comme tisser des fils invisibles entre le tangible et l'impalpable, entre le palpable et l'inexprimable. C'est explorer les contours de nos émotions comme des paysages inexplorés. C'est aussi caresser du regard les méandres de notre âme. Les relations, ces rencontres fugaces ou durables, dessine des arabesques sur la toile de notre existence. Notre corps devient alors la toile où s'inscrivent les étreintes, les échanges, les émotions partagées. Les battements de notre cœur résonnent en harmonie avec ceux des autres, créant une mélodie unique dans l'orchestre de la vie. Le mental, ce jardin de pensées foisonnantes, peut être apprivoisé par des gestes tendres envers nous-mêmes. Des moments de méditation, des escapades dans des paysages magnifiques. Voilà des portes vers des temps suspendus de sérénité. Comme des danseurs étoiles, nous avons le pouvoir de réguler notre propre chorégraphie émotionnelle. En observant, en ressentant, en comprenant nos réactions, en osant prendre d'autres chemins que ceux que nous prendrions habituellement. Ainsi, pouvons-nous devenir un peu, peu à peu, les chefs d'orchestre de notre bien-être. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi devient alors une manière de sculpter notre réalité. Écoutons notre corps et découvrons cette dimension poétique qu'il nous offre. Devenons les poètes de notre vie et trouvons la beauté dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle, dans chaque instant. De présence à soi-même. Dans cette exploration, nous façonnons notre propre épopée, notre propre poème vivant. Et notre corps, cet incroyable véhicule, nous transporte ainsi, de plus en plus fidèle à qui l'on est.
Comment se fait-il qu'après la mort, le corps pèse parfois plus que lorsqu'il est vivant ? Parce que dès l'instant où la conscience abandonne le corps, ce dernier n'est plus protégé. Beaucoup de choses qui, pendant que vous l'habitiez, ne pouvaient le pénétrer, ne rencontra à présent plus d'obstacles pour éviter. Pourrait-il, le corps était vivant et résister de multiples vibrations. Il en est même quand vous êtes malade. Le corps est moins protégé, plus vulnérable. Et ainsi, il arrive souvent qu'une maladie succède à une autre et encore une autre. C'est votre présence qui protège votre corps. Vous avez sans doute remarqué, lorsque vous êtes heureux, vous vous sentez plus léger que lorsque vous êtes triste. Vous vous sentez plus lourd, comme si un fardeau pesait sur vous. Pourquoi ? parce que quand vous êtes heureux, quand le bonheur vous habite, vous oubliez complètement votre corps, et quand vous êtes triste ou souffrez, vous ne pouvez pas oublier votre corps. Vous sentez tout le poids, il vous attire vers le bas, vers la terre. Alors, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes comme enraciné dans le sol. Quand vous êtes en méditation, en profonde méditation, quand vous oubliez complètement votre corps, même la lévitation peut se produire.
Ecchymose de Catherine Voyer-Léger. Une douleur crue, au toucher seulement. Se faire des bleus à des endroits qui ne touchent nulle part, des endroits vierges. Se faire des bleus à force de n'être touché nulle part. Mon plexus, une ecchymose. Vers de la vieillesse, de Sappho. Si mon ventre aujourd'hui était encore fécond, si mes seins fatigués permettaient que j'allaite, on me verrait courir, le corps et l'âme en fait. Le corps et l'âme en fait. Vers les noces et leurs flambeaux, leurs lits profonds. Mais ma face est ridée et l'amour doux amer n'approche plus de moi. Si votre corps est le lieu d'une révolte qui gronde. Marie Célie Agnan. J'ai dans le corps des manières de torrent en délire, grondement de terre en soubresaut, rebelle. La révolte dans le corps ancrée dès la première aube. Dans la langue des hommes, point de mots pour peindre mes remous. J'ai dans le corps des mots fous, déferlants, cendre, soufre, lave. Et le temps depuis les érinées, dans mon corps, n'est plus le temps. Soif, montagne, roche chauffée à blanc, éclat.
L'homme semence, Violette Ayot. Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le guet de la rivière, que l'ombre tranche comme un lent clin d'œil le brillant de l'eau, nous savons que c'est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à résonner d'une façon qui ne trompe pas. Nos bras fatigués s'arrêtent tous ensemble d'amonteiller le foin. Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s'empoignent et nos doigts se serrent à en craquer les jointures. Notre rêve est en marche, glaçant d'effroi et brûlant de désir. L'homme monte. Il marche d'un bon pas. Pourtant, sa marche paraît lente, douloureusement lente pour nos nerfs à vif. Pour tuer ce temps qui nous torture, nous redoublons d'élan dans le travail. Fourches et râteaux dansent une gigue qui grossit rapidement les tas de foin. Nos bras s'agitent sans que nous soyons en eux. Tous nos sens sont ailleurs, tendus vers lui. À chaque fois que l'homme disparaît derrière un repli du terrain, je me demande si je n'ai pas rêvé, ou s'il n'a pas simplement décidé de rebrousser chemin. À chaque fois, je me tourne vers mes compagnes, et je lis sur leur visage la même angoisse que la mienne. Le temps nous presse, nous oppresse. Bientôt, nous avons l'impression que ce temps nous crie après. Nous étions installés calmement dans l'attente, bercé dans la certitude qu'un homme viendrait. Et voici que la proximité de cet homme bouscule notre patience et transforme la bonne chienne qu'elle était, couchée à nos pieds, en une louve affamée. Oui, depuis plus de 2 ans, nous n'avons plus vu d'homme. Les derniers, les nôtres, sont partis, en février 1852, raflés par les gendarmes qui les poussaient de leurs fusils. Ils étaient à peine partis que dans le vallon, sous le bois du Défant, les fusils ont claqué. Martin et son ami Antoine Jean ont été tués. Ils avaient tenté de s'enfuir. Martin était mon amoureux, mon promis. J'avais 16 ans et demi lorsque le malheur est arrivé. Lui en avait 18. Combien de fois l'avais-je taquiné depuis des années pour lui montrer mon attirance ? Une fois, une seule fois, Je lui ai laissé caresser à travers le tissu de ma blouse mes seins de femme déjà prête à l'amour, déjà prête à se gonfler d'enfants. Mais personne, depuis février 52, n'est monté au village. Au début, nous les avons attendus. Nous attendions de pied ferme les représentants de l'Empire, de la morale, de la religion. Nous attendions les prédicateurs et les soldats de tout poil. Nous n'étions que femmes et enfants et nous savions que nous devrions nous défendre contre ces deux familles de prédateurs des faibles. Nous attendions surtout cette moitié de notre humanité qui avait été arrachée à notre terre, à nos murs, à nos cœurs. Mais personne n'est venu. Alors cet homme qui court lentement vers nous est donc le premier. Je serre la pomme qui se trouve dans ma poche. Je l'ai ramassée verte en partant ce matin parce que tombée de l'arbre en plein mois de juillet. Je serre cette pomme lisse avec cette robe tachée comme d'un coup d'aiguille de la marque du verre qui l'a faite tomber. Je caresse cette pomme que j'ai fait briller et je pense à Ève. Soudain, j'ai envie de croire à ce mythe et d'être la première femme. Il nous faut attendre près d'une heure avant que l'homme ne se présente à l'orée de notre champ. Nous le regardons et il nous regarde. Il a suspendu sa marche et nous, nos gestes. Il sourit et je crois que la tension crispe seulement nos visages. Lorsqu'il fait un pas supplémentaire vers nous, nous nous baissons vers l'ouvrage. Et soudain, sa main se pose sur mon bras pour l'arrêter. Je le regarde et dès cet instant, je sais que j'appartiens à cet homme. Et je sais dans le même temps que je vais devoir le partager. Je n'ai jamais imaginé cela, que je puisse tomber amoureuse. Nous avons longuement parlé entre nous. Nous avons eu tout notre temps pour réfléchir, chacune de notre côté, à propos de cet homme, bien avant qu'il ne se matérialise. Forte de mon rêve de Martin et de ma condition de vierge veuve, je n'ai en aucune façon imaginé que je puisse être attirée par l'inconnu que nous attendions. Je l'ai construit comme un objet, et c'est un homme. J'ai programmé notre relation comme un simple échange fonctionnel, et mes sentiments arrivent comme une crue, une vague insurmontable qui balaye mes résolutions, mes choix, ma volonté. Nous avons tout prévu de la venue d'un homme. Notre premier objectif était sa semence. Ensuite, sa force de travail. Enfin, sa présence. Jamais son amour. Même en secret. Je n'ai pas envisagé cette éventualité et mes compagnes non plus. Nous étions trop tendus vers ce besoin primaire, cet appel de vie qui nous tient de l'aube de l'humanité et même du monde des bêtes, la reproduction. Je suis totalement bouleversée. Je ne sais ni que faire, ni ce qui va se passer. Pour le fait, je suis amoureuse. Pour le fait, j'ai été la première qui l'ait touchée. Mais rien ne dit qu'il va me choisir. Je me demande même si mes compagnes ne sont pas comme moi tombées amoureuses de cet homme, de notre homme. J'ai honte et j'ai peur. Honte d'être tentée déjà de trahir le serment qui me lie aux autres femmes du village. Peur de ne pas savoir partager, peur de souffrir. Je me rends compte qu'en posant sa main sur une seule d'entre nous, l'homme divise notre harmonie. Il me faut réagir. Je lui tends la fourche. Il hésite un peu et l'empoigne. En l'enfonçant dans le foin, il s'enfonce dans le labeur, entre dans son rôle de force de travail et nous redonne notre égalité. L'idée est venue un soir d'ouvrage en commun, alors que nous étions toutes assises sous l'arbre et que les enfants étaient couchés. Elle est sortie de la bouche de l'une d'entre nous, comme une bulle qui vient crever la mare. « Et s'il n'y avait plus d'hommes nulle part ?» Le silence est resté sous l'arbre, au-dessus de nos têtes baissées. Et puis je crois que nous avons toutes parlé en même temps. On aurait dit une troupe de pintades affolées. Nos idées volées comme des sauterelles, se croisant avec leurs ailes ouvertes de toutes les couleurs, bleues, rouges, orangées. Nous avons toutes dit la même chose de mille façons différentes, mais nous étions d'accord. Un jour, un homme viendrait, s'il en restait, et nous devrions le partager pour la vie de nos ventres.
La nuit
direct sur les ondes de Air Diwa, la radio du Diwa, 107.5 et 101.7 FM. Ce soir,
Anne Sibran, enfance d'un chaman, donnée à la forêt. Vient alors ce premier matin, celui dont tu te souviendras chaque fois que tu ouvriras les yeux par la suite. Étonnée d'être partie ce jour-là avec tant d'innocence, ébahie encore d'y avoir survécu. Ton père te lève donc, comme pour une chasse, avec la même précipitation silencieuse et agile et le même détachement aussi. Comme tu crois revenir vite, tu ne prends rien. À quoi tu tiens? Le collier de ta mère restera à côté de ta couche. Tu y repenseras souvent. As-tu déjà traversé le village aussitôt, l'heure où les chiens roulent leurs dépouilles dans les cendres tièdes pour ces rêves de chasse qui crispent leurs mâchoires, les font gémir parfois? Rien ne bouge. Le silence est partout. Vous avez passé le ruisseau, les sentiers qui mènent au jardin, ces collines de troncs épais où vous creusez les pirogues. Ton père avance toujours, d'une démarche inflexible. Qu'est-ce qui le presse ainsi, à percer les buissons sans se soucier du bruit des feuilles, des brindilles écrasées? Tu le suis malgré toi, étonné qu'au lieu d'écouter les bêtes, il soit en train de courir encore. Qu'est-ce qui le tire ainsi devant? Passer le bosquet de bananiers, il n'y a plus rien que tu connaisses. D'habitude, quand il entre dans la forêt sauvage, le chasseur ralentit. Il prend le pas des bêtes. Où allez-vous? On n'avance pas ainsi lorsqu'on part à la chasse. Comme tu n'oses arrêter ton père, que les mots s'étouffent dans ta gorge, tes petits pas s'encombrent d'une sourde appréhension. Bien que trottant derrière, tu cherches des repères, impatients, tellement impatient de retrouver ton hamac, de revenir déjà. Parce qu'il t'emmène, hors des sentiers, loin du village, un peu plus loin à chaque pas. Au fil des heures, il n'y a plus que cette certitude qu'il t'emmène, que tout ce chemin, c'est pour toi. Le soleil a déjà passé la moitié du ciel que vous êtes encore à courir. Et tu t'échines tant à le suivre qu'il y a bien longtemps que tu ne penses plus à rien. Tu as fatigué tes questions. Vous parcourez à présent une forêt de lagunes, des dalles de lacs mauves, percées de palmes dont les racines jettent des pans de filets souples en travers de l'eau. Chemin ondulant et précaire que vous traversez sur le bout des orteils. Le silence est si profond qu'il boive au moindre mouvement. Les bras écartés, tu avances avec l'impression de te débattre dans un air lourd et épais comme un miel, tandis qu'une ondulation balaie sous tes pieds la chevelure éployée des racines. Vous avez laissé les lagunes pour une forêt de collines hautes, une montagne en surplomb. Ton père s'arrête enfin dans le creux d'un vallon. Tu vas rester ici. Tu n'as plus que la force de t'asseoir sur une pierre tandis qu'il sort sa machette et coupant les herbes, trace un grand cercle autour de toi. Ici tu resteras, mon fils, sans t'éloigner jamais. Tu as l'eau du ruisseau, les fruits de la chonta. Regarde. Tes yeux remontent le tronc du palmier jusqu'aux grappes de fruits rouges, en même temps que tu ravales à chaque gorgée cette terreur qui t'envahit à mesure que tu comprends. Tu ne feras pas de feu et tu ne mangeras rien d'autre que les fruits de la palme. Et surtout, tu prendras cela. Il te tend un petit sac de toile. Deux pincées dans la bouche, le matin quand tu t'éveilles et avant de t'endormir. C'est une plante forte, une herbe à tigre. Elle brûle au début, griffe l'intérieur du ventre. Il te faudra apprendre à la maîtriser, mais tu sauras. T'endormir, répètes-tu doucement. Tu regardes autour de toi ce sol hérissé d'épines, de racines, de lianes et de buissons. Ton père parle encore.
Le découragement est si profond que tu l'écoutes à peine, tandis qu'il pose devant toi un couteau, un bracelet de plumes, une pierre blanche et ronde, une flûte taillée dans un os fin. La lune est neuve. Je reviendrai te chercher dans un mois. Il a dit ces derniers mots très vite. Et comme le timbre de sa voix a changé tout à coup, avec une hésitation, un élan réfréné, tu lèves la tête vers lui, puis tu te dresses affolé. Tu l'appelles, car il n'est plus là, ton père. Tu le cherches. Il est déjà parti. Alors m'as-tu raconté ? Je me suis rassis sur ma pierre et j'ai pleuré. J'avais 8 ans, tout juste. Pleuré jusqu'à la nuit. On se souvient de tout, de chaque détail dans ces moments-là. Comme si le moindre mouvement d'insecte, le vol furtif d'un oiseau, venait s'arrondir pour se lever à l'amplitude exacte de ce que l'on ressent. Ce crépuscule sans luciole, cette forêt lourde autour de toi. Parce que alors il se met à pleuvoir et de sentir ces gouttes froides dans ton dos, tu te lèves pour crier.
Thank you.
Pour ne rien cacher, ça m'arrive de me réveiller et de me sentir comme cousu dans la peau d'un patient à moi. Et de me dire, ok, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je fais avec cette jambe en moins? Comment ça se passe la vie avec un diabète et une pompe à insuline accrochée au bide toute la journée? Comment je gère cette poche à merde qu'il faut vider tout le temps? Qu'est-ce que je fais de cette douleur à laquelle personne ne trouve de nom? Puis finalement, je regarde l'heure. Je regarde dehors. Je me dis, mec, tu as le droit de te décrocher. Tu as le droit d'être le mec que tu es. Deux bras, deux jambes, aucun équipement nulle part. Nul autre orifice que les orifices naturels. Profite de ça. Profite de ne pas savoir ce que c'est d'être à la place des autres. Hors de moi, Claire Marin. Ce n'est qu'une petite coupure au bout du doigt, à peine quelques millimètres, sans profondeur. C'est dérisoire. Je ne devrais même pas y faire attention. C'est une petite incision où s'immisce avec bonheur n'importe quelle poussière qui traîne. À chaque geste, la peau s'accroche dans les cheveux. Les fils de l'écharpe, la maille du pull. Elle semble presque s'y agripper. À chaque fois, la coupure paraît s'élargir un peu plus, comme pour rappeler qu'elle est là. Cette minuscule coupure devient insupportable. Elle concentre toute mon attention. Comme si cette entaille me divisait tout entière. Comme si tout mon sang s'en écoulait. Comme si la vie m'abandonnait par ces millimètres devenus odieuses béances. Pourquoi cette coupure m'obsède-t-elle ainsi? Pourquoi chaque geste m'y ramène-t-il? L'infime marque de la maladie, la peau fragilisée par les traitements, se déchire à la moindre égratignure. La maladie s'est inscrite dans chacun des mouvements. Elle sait se rendre inoubliable. Une simple blessure devient insoutenable. Parce que toute notre énergie est accaparée par l'effort de minimiser la douleur, quotidienne et familière. Toute autre faiblesse du corps est de trop. Un rhume, une angine, une éraflure m'exaspère. Tout mon corps est comme une surface écorchée. Mes nerfs sont des fils dénudés. On entre dans une nouvelle perception, exacerbée par la douleur. Tout me devient sensible. Tout peut me devenir intolérable. Mes réactions sont épidermiques. Mes accès de colère vive sont sans doute incompréhensibles. Ils viennent d'une logique souterraine qui n'émerge qu'en moi, loin des regards étonnés. Irritable. Je suis littéralement dans le vif du sujet. Je sursaute, je me brûle, je me cogne. Mon corps est le parchemin de cette violence involontaire du monde extérieur. Il s'y brise comme ramené par une houle contre laquelle il ne peut rien. Je suis un château de cartes. Les défenses immunitaires artificiellement abaissées me transforment en plaie ouverte. N'importe quoi m'infeste, m'irrite, me souille. J'éprouve ma vulnérabilité infinie. Tout est dangereux. L'extérieur me menace sans cesse. Sa force est décuplée par ma faiblesse. La paranoïa me guette. Ils disent qu'il suffit d'oublier un peu, que tous mes gestes ne rappellent pas inévitablement la maladie, que ma vie n'est pas faite que de ça. C'est vrai. En représentation, en public, je l'oublie. Parfois, je parle au futur. Je joue sans faille mon rôle social. Il le faut. Sinon, personne ne me supporterait plus. Mais certains savent entendre autre chose que ce discours policé. Les rêves et l'eau sont les deux mondes où je retrouve un peu d'équilibre, de légèreté, où je revis le plaisir du mouvement. Protégée par le gainage de l'eau, mon corps se défait de sa douleur. Elle s'estompe, s'efface, s'évanouit. Les gestes deviennent fluides, faciles. Le corps souple, presque habile. Évanouis les points d'accroche sensibles, les hanches, les coudes, plus rien ne râpe, ne frotte, ne déchire. Je me souviens d'avoir rêvé être une sirène. Mes jambes étaient emprisonnées dans un cocon formé par les draps enroulés à force de tourner sur moi-même en quête d'une position indolore. Dans le rêve, la momification s'était métamorphosée en puissance de mouvement. Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. On ne peut dire du corps qu'il est censé être comme ci ou comme ça. Ce qui compte, c'est de savoir si ce corps éprouve du bonheur, de la joie, du plaisir, s'il est bien en contact direct avec le cœur, avec l'âme, avec le sauvage. S'il bouge et danse à sa façon, c'est cela et rien d'autre.
Fayol, du même bois, extrait. La ressemblance. Les enfants, les bébés, ils les appellent les petits toux. Et c'est vrai qu'ils sont des petits toux. Qu'ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu des arrière-grands-parents, un peu de ceux qui sont morts il y a si longtemps. Des petits toux, tout ce qu'ils leur ont transmis, caché, inventé, tout. Des bouquets d'histoires, de silences, d'émotions, de gènes, de cellules. Des collages de lèvres, d'oreilles, de regards, de cils, de traits et d'odeurs. La gamine pose ses mains sur son ventre, son bébé vient s'y lover. Elle se demande à quoi il va ressembler. Il s'imprime en taille douce dans le revers de sa peau. Elle sait que l'encre se loge dans le fond des entailles, que toutes ses failles se verront sur lui. C'est par les brèches, par les blessures que les traits s'impriment, ce sont les écorchures qui font le dessin. Elle aimerait les polir, les estomper un peu. Elle s'inquiète qu'il ait ses lignes fragiles, ses contours égratignés, ses crevés, ses bêtes trop noires aux mêmes endroits. Ce sera un garçon. C'est vrai qu'elle ressemble à son père, qu'il y a des petites choses de lui qu'elle peut donner à son fils. Ses yeux et ses mains, la forme de ses doigts, celle de ses orteils. Sa peau aussi, sa couleur, sa texture, sa façon de vieillir, de se plisser, la longueur de ses jambes, leur galbe. Mais le jour où elle est tombée enceinte, elle a commencé à ressembler à sa mère. Avant même de faire le test de grossesse, elle avait remarqué que ses traits changeaient, qu'une autre se dessinait sur elle. C'est une chose qu'elle avait souvent notée chez ses copines, cette métamorphose au moment de devenir mère. Quand elle s'assoit toutes les trois sur le muret devant la ferme, elle, sa mère et la mémé, ça se voit qu'elle se transforme en sa mère, et sa mère en la mémé, et la mémé en celle qu'on appelait mémé avant. Ça fait comme un dégradé. Le petit tout lève le bras, la mémé lève le bras. Il se gratte la tête, elle se gratte la tête. Il tire la langue, elle tire la langue. Il rigole, elle aussi. Il saute en l'air, elle ne peut plus faire ça. Ce n'est pas qu'elle ne veut plus jouer avec lui, ça l'amuse de le singer, de se voir en lui, de devenir son reflet. Un reflet avec 89 années d'avance, ça fait de son mieux, mais ça ne peut plus toucher ses pieds, plus sautiller. Il ferme les yeux, elle ferme les yeux. Il touche son nez, elle non, elle a toujours les yeux fermés. Il rigole, elle rigole. Il lui demande pourquoi elle a tous ses traits sur le visage. Elle lui fait répéter, elle n'entend plus très bien. Pourquoi tu as des traits sur le visage ? Elle regarde les joues, le front du petit comme si elle s'examinait dans un miroir. Elle ne voit rien pourtant qui ressemble à des rides. Le visage de la mémé est patiné par le vent et le soleil, ses hanches rembourrées par le fromage et la bonne viande de la ferme. Le paysage déborde sur elle. Elle n'aurait pas pu vivre ailleurs. Elle a la même silhouette que le prunier du jardin, celui qui croule sous trop de fruits, qui s'affaisse sous le poids de sa générosité. Ses bras, son dos, ses jambes sont fatigués d'avoir passé toute une vie à donner. Elle en a élevé des gamins, les siens et ceux des autres. Pendant des années, elle a pris soin des bêtes et de la terre sans jamais faire de manière. Quand elle reçoit pour le café des amis de la ville, elle trouve qu'elles sont bien mises, qu'à côté, elles ne ressemblent à rien. Pourtant, c'est tout l'inverse. Leurs beaux souliers, leurs lèvres trop rouges, leurs fanfreluches autour du cou, leurs breloques au poignet font ressortir la beauté de la mémé. Sa vieillesse ne fait pas diversion. Elle se montre sans mentir et démasque toutes les autres. Elle ne cherche pas à rester jeune. Elle sait qu'au bout d'un moment, la vie tue. Elle n'a aucune crainte, elle a déjà dépassé l'âge de ses parents, elle a bien vécu. Elle ne regrette rien et ne reviendrait pas en arrière. Le petit tout installe des barrières tout autour de sa mère. C'est pour pas que je parte ? À moins que ce soit pour retenir mes bêtes, c'est ça ? Avec sa robe à fleurs, on dirait la prairie. Les petites mains cherchent un endroit plat, terrasse avec leurs pommes vers son nombril, juste avant le dévers de ses côtes, là. Ne bouge pas surtout, ne bouge pas, je reviens. Quelques barres en bois, un triangle pour le toit. Tu reconnais ? C'est la ferme de la mémé. Ses seins dessinent des sucs. Voici qu'il revient, les bras chargés d'animaux. Des vaches immenses avec des taches, d'autres plus petites. Ça fera comme si elles étaient au loin. Il en installe sur ses épaules, dans ses vallons, dans ses drapés fleuris. Elle aimerait se lever pour voir si ça rend bien, mais quand on est le paysage, on ne peut ni bouger ni se regarder de loin. Alors elle reste allongée sur le sol, attend que les vaches aient fini de brouter sa longue robe, que son petit tout ait réussi à rassembler toutes ses bêtes. Le petit tout prend la voix du pépé. Il aile les vaches en patois. « Ne bouge pas, tu es l'herbe, tu es le sol. Souffle un peu pour faire le vent. Je dois encore passer le tracteur. » L'enfant fait vibrer ses lèvres et roule sur les cheveux de sa mère, les entortille, fabrique des bottes de foin. Les petits doigts pincent le tissu comme pour y cueillir des fleurs. « Voilà, ça fera plaisir à mon papy. On va dire que son arbre est ici. » Il dépose délicatement un bouquet imaginaire sur le sentier que délimite sa clavicule. Je vais aussi en ramasser pour le caveau du cimetière. Les doigts potelés sélectionnent les myosotis, les rassemblent et les posent là, à l'orée de sa taille. Comme si toute la famille avait été enterrée dans sa chair, que le pépé, le frère du pépé, ceux d'avant encore dormaient quelque part dans les sillons de sa peau.
Texte sans titre par Émilie Moncy. 39 ans, 2 mois et 1 jour. Lundi 15 janvier 2023. Depuis maintenant 3 mois, 8 jours, en vérité beaucoup plus si l'on comptabilise la gestation, je suis en état de fatigue notable, ou avancée, ou critique. La nuit fut rude et belle à la fois. Comme toute, puisque M me réveille. Un demi-million de fois durant les 8 heures qu'est censée durer ma nuit, mais aussi parce que M me réveille. M est là, M existe. Je dois trouver le temps et l'énergie de trouver un texte à déclamer pour la nuit de la lecture, samedi. J'ai été invitée à le faire, ça ne se refuse pas. Mon cerveau est sur feu moyen, à petit bouillon, je cherche l'idée. Le texte, le livre qui correspond au thème, le corps. 39 ans, 2 mois et 2 jours. Mardi 16 janvier 2023. Ma nuit ? Quelle nuit ? J'ai les yeux secs et la bouche entrouverte en permanence, donc l'air très intelligent. M a tété toute la nuit. J'ai la mamelle plus flasque que mon arrière-grand-mère, décédée en 2007. Évidemment, j'ai pas pu me plonger dans ma bibliothèque pour trouver le texte qui me fera briller en toute modestie lors de la nuit de la lecture. Mais c'est samedi, je suis large, comme on dit. J'ai grave le temps. Mais attendez, vous trouvez pas que ça sent le caca ? 39 ans, 2 mois, 3 jours, mercredi 17 janvier 2023. Je ne reconnais plus la texture de ma peau, le volume de mes cheveux, la couleur de mes yeux. Mais il paraît qu'aujourd'hui, je suis rayonnante. On peut devenir radioactive à force de fatigue. M tête en me faisant des petites papouilles. Son regard est fixé sur mon double menton pendant que je somnole. J'ai un truc prévu samedi soir, mais j'arrive plus à me souvenir quoi. PS, j'ai envie de galettes à la frangipane. 39 ans, 2 mois, 4 jours, 18 janvier 2024 ? Je me rends compte en écrivant ce quatrième jour qu'on est en 2024. Vous pensez que mon atrophie neuronale pourrait être définitive ? J'ai retrouvé ce que j'ai oublié pour samedi soir, mais si vous êtes attentif, vous n'avez pas pu passer à côté. Quand je pense corps, je pense d'abord au viol. Ambiance, ambiance. Nous serons beaucoup de lectrices ce soir-là et j'ai peur de ce que je pourrais provoquer. Alors je pense accouchement, mais tous les textes que je trouve sont écrits par des hommes. Vu de l'extérieur, rien qui peut me parler, rien qui rende justice à l'expérience. Il faut admettre que le thème me paume. Mon corps ne m'appartient pas tout à fait depuis plusieurs mois. Diabète gestationnel, hypothyroïdie, toxoplasmose, bas de contention, prise de tension, saturation, monitoring. Respirer, faire descendre, dilater, respirer, somnoler, contracter, anesthésie, réveiller, pousser, expulser, se sentir exploser, accueillir. 39 ans, 2 mois, 5 jours, vendredi 19 janvier 2024. Eureka ! Durant une tétée nocturne, M au sein, Lupin le chat sur la tête, le doux velu à mes côtés, C tout là-haut avec son indépendance qui donne espoir. Pénac, mais c'est bien sûr, le journal de mon corps, le mien. J'en écris tout plein de phrases dans ma tête. J'ai peur qu'elles se vident durant la nuit et que toutes les phrases s'évaporent. Mon dos prend un drôle d'angle, les muscles qui bordent ma colonne vertébrale subissent une contracture délicatement douloureuse. Je ne peux pas bouger. Ils sont tous collés autour de moi. Le tableau est, j'imagine, charmant, mais un chouïa paralysant. Si je bougeais la jambe juste un tout petit peu, ça me soulagerait, c'est sûr. Sauf qu'il y a l'autre chat, vieille moumoute, calée tout contre. Je ne peux pas risquer de la déranger. J'ai pu commencer à écrire, 18 minutes exactement. Le dos courbé sur la table de la cuisine, la main gauche crispée sur mon stylo à billes. Mais il faut que je reparte. Au pas de course. M dans la poussette pour accompagner C chez l'allergologue. J'ai l'impression que ce petit monde ne prend pas au sérieux ma carrière naissante d'autrice à succès. Je continuerai demain. Mais attendez, demain, on est déjà samedi. 39 ans, 2 mois et 6 jours, samedi 20 janvier 2024. Minuit 3 heures. C'est fou comme seulement 3 heures de sommeil consécutif vous changent. La suite a été un peu hachée menu, mais je suis plus souple, plus vive. J'ai les idées claires et l'esprit qui crépite. J'aligne les lettres. J'enchaîne les lettres qui forment les lignes. Les lignes s'alignent. J'enfile des litres de thé. J'aurai bientôt terminé et je pourrai m'apprêter. Il est l'heure, je file. Radio Diwa, attendez-moi.
C'était les nuits de la lecture 2024 sur RDIWA, la radio du Diwa, 107.5 et 101.7. Ce soir avec Nolven, Jean Thibault, Sophie, Gilles, Jane, Marion, Fanny, Baptiste, Claire, Thaïs et Émilie. Merci à vous tous et toutes. La musique et la réalisation est signée par Manu et Anthony, Vie de Chien Rouge.